Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
La loi de la connexion, dixième loi. Dixième loi, la loi de la connexion. Premier principe sur cette loi de la connexion, notez que les vrais leaders, ont compris qu'il faut d'abord gagner le cœur de leurs suiveurs. Les vrais leaders ont compris qu'il faut d'abord gagner le cœur de leurs suiveurs avant de leur demander de les aider. Les vrais leaders ont compris qu'il faut d'abord gagner le cœur de leurs suiveurs avant de leur demander de les aider. Donc là, nous allons parler de d'abord toucher le cœur des personnes avant de leur dire « faites ça, faites ça, faites ça. Venez m'aider. » Et là, on va parler du relationnel en tant que leader. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas la peine de le noter, « si vous voulez vous conduire vous-même, utilisez votre tête. Si vous voulez conduire les autres, utilisez votre cœur. » C'est vrai, ça. Absolument. Donc en fait, si vous voulez que les gens agissent, c'est-à-dire vous aident, il va falloir toucher leur cœur. Il va falloir toucher leurs émotions et leur cœur. Ça, c'est important. Vous ne pourrez pas avoir des gens qui vous aident seulement s'ils sont d'accord avec vous, avec leur tête. Il va falloir les toucher au plus profond d'eux-mêmes. Et il va falloir que ces gens-là ressentent que vous êtes en train de toucher quelque chose qui les concerne personnellement. Quelque chose qui pourrait être un fardeau, qui pourrait être aussi une vision, quelque chose qu'ils aimeraient tant voir être réalisé, mais pour ça, ils ont besoin de quelqu'un, un leader. Voilà. Et quand vous commencez à comprendre ça, vous allez pouvoir vraiment vous connecter aux gens. En fait, les vrais leaders, notez que les vrais leaders se concentrent. Les vrais leaders se concentrent sur la construction des bonnes relations. Les vrais leaders se concentrent sur la construction des bonnes relations. C'est très important. Le relationnel dans le leadership est important. Et le relationnel doit être fait d'une certaine façon, nous allons le voir. Il faut savoir se connecter aux gens. Vous n'êtes pas là pour faire du one-man show. C'est moi le patron, c'est moi le pasteur, c'est moi ceci, c'est moi cela, ça ne marchera pas ça. Les gens vont vous suivre, mais je vous garantis, si vous avez un autre leader qui est relationnel, les gens vont se partir de votre leadership. Et vous direz, mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi? Vous savez, quand un pasteur voit plein de gens quitter son église, il doit arrêter d'être aigri et d'être blessé. Il doit se poser la question, qu'est-ce que je ne fais pas? Pourquoi les gens partent ailleurs? Si les gens partent ailleurs, c'est qu'il y a des raisons. C'est vrai que des fois, les gens vont se faire tromper, on est d'accord, mais ce n'est pas la majorité des gens. Des fois, tu as des bonnes personnes qui partent de ton leadership. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Souvent, c'est parce que tu n'as pas su te connecter avec eux. Donc, celui que tu dois remettre en question, c'est quoi? C'est toi. Il ne faut pas attendre que les suiveurs créent des relations. C'est au leader de créer des relations. Vous voyez, souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Si les suiveurs créent des relations, tu risques d'avoir des problèmes après, parce qu'eux-mêmes vont devenir des leaders. Et si toi, tu n'as aucune relation, tu es tout le temps loin du peuple, c'est eux qui vont diriger après. Donc c'est à toi, c'est ta responsabilité de créer des relations, d'être quelqu'un de relationnel. Savoir te connecter aux gens, c'est absolument fondamental. Deuxième grande vérité sur la loi de la connexion. Deuxième grande vérité, tous les grands leaders ont quelque chose en commun. ils savent se connecter avec les gens. Deuxième grande vérité, donc numéro 2, tous les grands leaders ont quelque chose en commun. Ils savent se connecter avec les gens. On va regarder brièvement un texte, parce que ça, je sais que vous le connaissez certainement peu. C'est un texte que l'on va trouver donc dans 1 Roi chapitre 12. Et on va parler d'un roi qui s'appelle Roboam. Et je vais vous donner le contexte de ce texte avant, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Roboam, c'était le fils de qui ? Du roi Salomon. Et Roboam, c'était un homme qui prenait la succession de son père, mais dans un contexte difficile. Quand vous étudiez les quatre premiers rois d'Israël, vous allez comprendre comment Israël fonctionnait. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Saül n'a jamais fait d'Israël une nation. Il n'a jamais créé une armée, il n'a jamais créé une administration, il a rien fait, Saül. David, lui, a mis Israël en mouvement et il a amené Israël à devenir une vraie nation. Il a écarté les ennemis. Quand David était au pouvoir, dans ses meilleurs moments, le territoire d'Israël n'a jamais été aussi étendu. Il a créé une vraie armée, il a créé quand même une certaine administration. Il a créé une capitale, etc., etc. Quand Salomon a pris le pouvoir, il a fait accélérer Israël. Il a fait d'Israël la nation à l'époque qui était la plus prospère, qui existait sur la terre. Partout, on venait chercher de la sagesse de Salomon. L'argent était courant partout, l'or partout. Il a construit un temple hyper riche. Salomon était l'homme le plus riche qui n'a jamais vécu sur la terre. Il avait des dizaines et des dizaines de tonnes d'or à lui. Mais à la fin du règne de Salomon, il y a eu un problème. Cet homme a commencé à amener l'idolâtrie. Il a commencé à avoir plein de femmes, plein de concubines. Il a eu plein de problèmes avec ça. Ils ont amené de l'idolâtrie. Et là, Dieu a dit par un prophète que le royaume serait coupé en deux. Ensuite, Roboam, son fils, va prendre le pouvoir. C'est dans 1 Roi chapitre 12. Et quand Roboam va prendre le pouvoir, Roboam va être un leader sans expérience et un leader qui va faire une erreur classique en leadership. Il avait une situation déjà qui n'était pas très facile parce que son père lui avait laissé, comme on dit en français, des patates chaudes. Ça veut dire que la situation était assez explosive. Le peuple avait beaucoup souffert à la fin de la royauté de Salomon. Le peuple avait des difficultés et un nouveau leader prend la place. Il s'appelle Roboam. Et Roboam va faire une erreur classique de leadership. Nous allons lire son histoire. 1 Roi chapitre 12. Il est dit, Roboam se rendit à Sichem, 1 Roi chapitre 12 verset 1, car tout Israël était venu de Sichem pour l'établir roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'a pris, il était encore en Égypte et il avait pris la fuite devant le roi Salomon. C'était en Égypte que Jéroboam habitait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël arrivèrent et parlèrent ainsi à Roboam. Roboam, le fils donc de Salomon, qui venait tout juste d'être intronisé. Ton père, sous-entendu Salomon, a rendu notre joug bien dur. Et toi maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à son peuple ? Ils lui adressèrent la parole en ces termes. Si aujourd'hui tu te fais serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, et si tu leur réponds en parlant avec bonté, ils seront toujours tes serviteurs. Mais Roboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens. Il prit conseil de ceux qui enfant avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug de ton père que ton père a mis sur nous. Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui, lui adressèrent la parole en disant, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a imposé le joug pesant. et moi j'alourdirai. Moi j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai ou je châtirai avec des scorpions. Pff, quel idiot. Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le troisième jour suivant, etc. Et il va leur raconter tout ça. Et le peuple va réagir comment ? Il va réagir extrêmement mal. Le peuple va réagir extrêmement mal. Verset 16, il est dit, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, regardez bien, ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe et les tentes d'Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, c'est-à-dire débrouille-toi. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Et alors, le roi va envoyer des collecteurs d'impôts, et ils vont les tuer, il va y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes, et il va y avoir une division en Israël avec les deux royaumes. C'est ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire que le sud, Juda, la tribu de Juda qui était dans le sud, là où il y avait la capitale Israël, va faire sécession, c'est-à-dire va se couper du nord, de tout le nord, des autres tribus d'Israël. C'est de là où est venu le problème. Vous allez me dire, oui, mais c'était prophétisé. Oui, c'était prophétisé. Mais vous savez, Dieu, même s'il donne un jugement et qu'il trouve des cœurs vraiment repentants, Dieu peut retarder son jugement ou même annuler son jugement. Là, Salomon avait gaffé sérieusement, très sérieusement et longtemps. Il avait amené l'idolâtrie. Si Roboam s'était levé et humilié devant Dieu en disant, Seigneur, mon père a fait n'importe quoi. S'il avait pris conseil, vous savez, les anciens là, ils tremblaient. Ils tremblaient parce qu'ils avaient été conseillers de Salomon, mais ils savaient que Salomon, à la fin, avait complètement disjoncté. Il faisait n'importe quoi. Et les anciens ont dit, non, 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 écoute ce peuple. Ils savaient, les anciens savaient que ça n'allait pas, que le peuple souffrait très sérieusement. Et là, il y avait un nouveau leader, et le peuple avait des attentes. Et Roboam aurait dû écouter les anciens. Mais comme c'était un petit coq qui savait tout, il a été voir les autres petits coqs, et ils se sont parlé entre coqs. Et ils ont pris des décisions de coq. Et qu'est-ce que ça a créé ? Division. Vous voyez parfois comment l'orgueil peut faire des choses. Terrible. Et Roboam n'a pas su se connecter à ce peuple. Il aurait dû vraiment faire attention. Vous voyez, on peut être un bon leader ou on peut être un grand leader. Et tous les grands leaders savent faire une chose. Mettre l'intérêt du peuple en avant. Mettre l'intérêt du peuple en avant. Les grands leaders font tous ça. Les autres leaders souvent mettent leurs intérêts en premier. Un Mandela, c'est rare à trouver. Le gars qui fait 25 ans de prison pour protester énergiquement contre la ségrégation raciale. C'est rare ces gens-là. Ces gens-là sont rares. Il est là, mais il voulait le bien du peuple. Un Mandela qui, après avoir souffert tout ça, mis président, dit, après un ou deux mandats, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, et dit, moi, je vais laisser le pouvoir. Imaginez-vous, ils sont rares ces gens-là. Quand on les compare à des Mobutu, vous avez les deux extrêmes du leadership ici. Un qui veut vraiment du bien à son peuple, et qui est prêt de se retirer quand il le faut. Mais vous voyez l'image que Mandela a dans le monde aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oh, tous les gens respectent cet homme. Tous les gens, tous les gens de toute race, de toute langue disent Mandela, ah, c'est celui qui a, au niveau de l'Afrique du Sud, il a payé 25 ans de prison, il a souffert, mais il voulait quoi ? L'intérêt du peuple en premier. Mobutu a gardé une image extrêmement misérable et très négatif dans le monde entier. Dans le monde entier, parmi vous les Congolais. Mais pas seulement. À l'extérieur, tout le monde sait que Mobutu a complètement disjoncté. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait aucun intérêt pour le peuple congolais. Et que ça a été une catastrophe. Alors qu'il aurait pu faire de cette nation la première nation d'Afrique sans aucun problème. Il avait toutes les cartes en main. Toutes les cartes. Il avait toutes les relations internationales. Il avait tout ce qu'il voulait, toutes les richesses. Il aurait pu faire du Congo la nation la plus développée d'Afrique. Largement devant l'Afrique du Sud, sans aucun problème. Vous voyez, le leadership. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de leadership. C'est tout. Quand on commence à le réaliser, on peut changer les choses. On voit bien, on voit bien. Mandela a eu un excellent leadership, même s'il a fait des erreurs personnelles, il a fait des gaffes sérieuses. Mais de ce côté de l'intérêt du peuple, il a toujours mis l'intérêt du peuple en premier. Parce que vous savez comme moi que ce genre de personnes, quand après, quand ils ont beaucoup souffert, qu'ils prennent le pouvoir, en général, vous ne pouvez plus les décoller du pouvoir. C'est clair, c'est classique. Et Mandela a été capable d'une humilité exceptionnelle, alors qu'il était connu. Tout le monde aurait approuvé, même s'il avait fait 6 mandats. Peu importe. Les gens auraient dit, mais de toute façon, on te connaît, on sait ce qu'il y a dans ton cœur. Vous voyez ? Parce que cet homme a su se connecter avec les Sud-Africains. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, un excellent leader va faire ça. Il met les intérêts du peuple qu'il dirige avant tout. Et pour lui, ce n'est pas une option. C'est quelque chose qu'il comprend, quelque chose qui est en lui. Un excellent leader, c'est ce qu'il fait. Je vous garantis, si vous n'êtes pas capable de créer des relations fortes avec les gens que vous dirigez, vous ne les amènerez pas loin. Et créer ces relations fortes, c'est très important. Très, très important. Donc, Roboam, qu'est-ce qu'il a fait ? Roboam, il ne s'est jamais connecté avec le peuple. Il n'a pas voulu les écouter. Il a dit, moi, ces gens-là, je m'en fous. Mon père vous a frappé, moi je vais vous frapper plus fort. Vous avez crevé la faim, mais là vous allez être dans la famine totale. Vous pensez que les gens vont réagir positivement ? Un jeune coq qui arrive là et qui veut imposer sa loi, alors qu'il a un peuple derrière lui qui a des problèmes et un leader potentiel qui sera Jéroboam, qui lui va faire quelque chose, en tout cas au début. Vous savez, c'est comme ça qu'Hitler est parvenu au pouvoir. Les Allemands avaient des difficultés énormes. Et quand Hitler est parvenu au pouvoir alors qu'il a été mis en prison, on l'avait mis en prison, mais il avait un plan pour relever l'Allemagne. Et Hitler, au départ, a relevé l'Allemagne économiquement. Il a mis les Allemands au boulot. Sauf qu'après, il les a manipulés et les a détruits. Et s'est détruit aussi. Et a détruit une partie du peuple juif. Mais toujours, la plupart du temps, les leaders commencent bien. Mais lui, Roboam, il n'a même pas pu bien commencer. Il a été d'une stupidité épouvantable, d'un orgueil inimaginable. Et il aurait dû regarder la situation et dire « Ce peuple a souffert avec mon père. Je ne peux pas encore le faire souffrir. Je vais voir ce dont ce peuple a besoin. » Et à ce moment-là, il aurait pu être un bon roi. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y avait encore pas mal de prospérité en Israël à l'époque, même si ça avait sérieusement diminué à cause de tout ce que Salomon avait fait. Donc, en tant que leader, nous devons examiner plusieurs choses. Il y a 4 choses que nous devons examiner. Si vous voulez vous connecter. 4 choses si vous voulez vous connecter. D'abord, il faut regarder au-delà de vous-même. Il faut regarder au-delà de vous-même. Si vous êtes leader, l'égoïsme ne doit pas exister. Je ne vous dis pas d'avoir une mentalité de pauvre, mais je vous dis l'égoïsme ne doit pas exister chez vous. Ce que vous avez, faites-en profiter les autres. S'il y a des richesses dans une nation, ça ne doit pas profiter à quelques personnes, ça doit profiter au peuple. Si un leader ne sait pas faire ça, il sera toujours un mauvais leader, épouvantable. Et Roboam, il n'a pas su faire profiter à tout le monde. Il voulait tout, il voulait encore des taxes, des impôts sur un peuple qui était en train de crever la faim. Et il s'est trompé. Et le peuple l'a rejeté, et c'est normal. Donc regardez au-delà de vous-même, pas d'égoïsme. Oh, je sens qu'il y a un téléphone qui va m'appartenir. Numéro 2, grandissez au-delà de ce que vous êtes. Grandissez au-delà de ce que vous êtes. Et là, il faut apprendre à écouter les bons conseils. Il y a des gens qui vous donneront des bons conseils, suivez-les. Ne soyez pas sourds. Il y a des gens que Dieu vous donnera qui sont de bons conseils. Les anciens étaient de bons conseils. Ils connaissaient très bien la situation. Ils avaient conseillé Salomon pendant des années. Salomon les avait un peu écrasés parce qu'il avait fait n'importe quoi. Mais au moins ces gens-là connaissaient la réelle situation du peuple. Et il aurait dû, Roboam aurait dû écouter ce peuple, écouter les conseils au travers du cœur du peuple. Numéro 3, donnez et donnez-vous aux autres. Donnez et donnez-vous aux autres. Beaucoup de leaders disent « qu'est-ce que je peux ramasser ?» L'excellent leader dit « qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple ?» Vous voyez la différence ? Qu'est-ce que je peux ramasser ? Comment je peux rapidement construire ma maison et sécuriser avant que je sois déboulonné ? Ça, c'est le mauvais leader. Toujours vouloir prendre ce qu'il peut prendre, plutôt que de vouloir donner au peuple. Le bon leader va se donner aux autres. Le mauvais leader, il ne pense qu'à lui. Roboam, lui, il ne pensait qu'à ses intérêts. Je vais vous châtier et je vais vous prendre des impôts. Mais le peuple n'avait pas besoin de ça. Le peuple avait besoin d'un leader qui allait faire redémarrer le pays. Alors que là, il va mettre un coup de frein total sur Israël. Israël déjà avait bien ralenti à la fin de la vie de Salomon. Et lui, Roboam, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appuyer avec ses deux pieds sur le frein. Et il va arrêter totalement Israël. Israël va se couper en deux, ça va être la galère. Il va avoir un roi au nord et un roi au sud. Le roi de Juda et le roi d'Israël. Ensuite, numéro 4. Allez au-delà de vos possibilités. Allez au-delà de vos possibilités. C'est-à-dire qu'il faut amener le peuple très loin. Le plus loin possible. Le plus loin possible. Ayez la vision de rendre les gens heureux, épanouis. Parce que derrière vous, il y aura une génération qui va vous succéder. Et vous savez, quand il y a un leader qui est passé quelque part et qui a laissé derrière lui des conflits, des guerres, des injustices, on en parle. D'une mauvaise image. Quand un leader a laissé de bonnes choses, on va construire en général sur ce qu'il a commencé de faire. Et il faut savoir amener le peuple là où ils n'imaginent même pas qu'on pourrait aller. Ça, c'est tout le travail d'un leader. C'est pas un travail facile, c'est le travail d'une vie. Si vous voulez diriger les autres, il va falloir vous donner complètement aux autres. Si vous pensez à vous-même, si vous pensez à votre vente, à la maison que vous allez construire, à la bagnole que vous allez conduire, au compte en banque que vous voulez remplir en essayant de récupérer de l'argent, vous faites fausse route. Fausse route. Et on verra que plus vous vous donnez, on se donne à une vision, plus on se donne aux gens, plus les gens nous donneront en retour, mais pas tout de suite. Ça, on le verra. Il y a une récompense du leadership, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Le problème, c'est que la plupart des gens qui veulent diriger les autres veulent d'abord se servir. Et ils ont tort. Ils ont tort, complètement tort. Ça, c'est vraiment diabolique. C'est pour ça qu'on voit dans beaucoup de nos pays, moi je le vois au Burundi constamment, des gens qui changent, les ministres, on va les changer, paf ! Ah oui, parce qu'il a volé. Le gars se dit, je suis ministre, je suis là peut-être pour 6 mois, 1 an, 2 ans, au mieux 5 ans. Entre-temps, il faut que je... le plus possible. Mais c'est lamentable. C'est honteux, c'est scandaleux. Il y a des gens qui ont des problèmes par-dessus la tête, et la seule chose que la personne qui dirige se permet de faire, c'est de piquer le plus possible. Mais c'est vraiment incroyable de voir ça. Ça, c'est pas du leadership divin, c'est du leadership satanique. Satanique. Quelle tristesse de voir des gens qui se disent leaders. Quand la Bible nous parle, le mot ministre, littéralement, ça vient en fait de la Bible, ça veut dire serviteur. Un jour, il y avait comme ça un ancien ambassadeur qui discutait de ça sur une télévision, et il disait, mais il faudrait peut-être se rappeler que le mot ministre veut dire serviteur. Il le disait clairement, il avait raison cet homme. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien ou qui ne veulent rien comprendre au leadership. Mais le vrai leadership, c'est de se donner complètement aux autres et d'amener les autres très loin. Et de toute façon, tu en auras des bénéfices, mais pas quand tu auras 20 ans ou 30 ans. Peut-être que tu en auras 50 ou 60 ou plus. Et là, les gens te remercieront tellement qu'ils viendront même te donner toutes sortes de choses. Et tu auras eu une double récompense, celle d'avoir investi chez des gens, d'avoir amélioré leurs conditions de vie, de les avoir amenés dans leur destinée. Mais aussi, tu auras une récompense, c'est que de toute façon, tu seras bien, tu seras prospère, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui travaille bien selon Dieu, de toute façon, Dieu ne peut pas le manquer de le bénir très largement. Sauf s'il a un esprit de pauvreté. Mais ça, c'est un autre problème, une mentalité de pauvreté. Ça arrive parfois. Des gens qui disent, non, je ne veux rien posséder, je ne veux rien, nanana. Et c'est bon, okay. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, mais il y a quand même un minimum. Tu as des enfants à élever, tu as des enfants à éduquer, et tu as aussi un héritage à laisser derrière toi. Ce qui est normal. C'est biblique à 100%. Les gens qui n'ont pas cette vision-là, je trouve que c'est dommage. S'ils ont été de grands leaders, c'est normal que sur cette terre, ils laissent quelque chose à leurs enfants. C'est tout à fait normal. Parce que les enfants aussi ont payé le prix du leadership. Grand 3, se connecter avec les gens est du ressort du leader. Grand 3, se connecter avec les gens est du ressort du leader. Se connecter avec les gens est du ressort du leader. C'est le leader qui doit faire cet effort-là. C'est le leader qui doit tirer les autres. Vous savez, c'est comme une locomotive avec les trains. Vous avez la locomotive, ce ne sont pas les wagons. Vous dites les wagons ou les wagons ? Les wagons ici, oui, parce qu'il y a des gens qui disent les wagons. Ça doit être belge, ça. Ça ne doit pas être très français, mais peu importe. La locomotive, c'est celle qui tire les wagons. Vous n'avez jamais vu des wagons tirer une locomotive ? Ben voilà, le leader, c'est la locomotive. Il doit tirer les wagons. C'est-à-dire qu'il doit attirer les gens vers lui. Il doit créer des relations. C'est du ressort du leader de se connecter au suiveur. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand vous vous connectez aux gens, vous faites cet effort-là, il va y avoir une réponse. Il va y avoir une réponse des gens qui vous suivent. Quand vous vous connectez aux gens, il y a une réponse. Il y a quatre choses que vous verrez que les gens vont faire quand vous créez des relations envers eux. Quatre choses. D'abord, quand vous touchez les émotions des gens, ils réagissent positivement à votre leadership. Quand vous touchez les émotions des gens, les gens réagissent positivement à votre leadership. Et vous voyez, Roboam n'a pas fait ça. Roboam n'a pas touché les émotions de son peuple. Le peuple avait des besoins, il avait des attentes, il souffrait. Ils étaient dans la douleur. Et Roboam n'a pas su s'identifier à son peuple. C'était un homme dur. Mon père vous a châtié avec les fouets, et ben moi c'est avec les scorpions. C'est quelqu'un qui n'avait pas de cœur. Quelqu'un qui n'a pas su toucher les sentiments, leur dire « Je vous comprends, vous avez souffert, je sais que mon père avait fait des choses formidables pendant les 20-30 premières années de sa vie, mais après c'est vrai, maintenant on souffre parce qu'il a amené l'idolâtrie. Mais on va changer tout ça. Je vous comprends. » Si un leader n'arrive pas à comprendre les autres au niveau émotionnel, c'est très mauvais. Un leader qui n'a pas le cœur de son peuple ne pourra jamais se connecter à son peuple et ne pourra jamais réussir. Donc, d'abord, tu touches les émotions réellement et le cœur du peuple. Et à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont se donner à la vision, c'est obligatoire. Ils vont se dire vraiment, là, on a un leader et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et là, ils vont suivre. Mais là, Roboam, ils ne l'ont pas suivi. Tu t'en fous de nous, on souffre, tu nous laisses mourir et tu veux encore nous asservir en plus et tu crois que ça va marcher. Ils se sont révoltés, c'est normal. Cet homme était sans émotions ou des émotions négatives qu'il avait envers le peuple et il ne comprenait pas la souffrance du peuple dans laquelle il avait la tête. Donc ça, c'est important. C'est très important qu'un leader, pour se connecter, puisse comprendre le peuple, toucher les émotions du peuple, comprendre, ressentir le cœur. Numéro 2, quand vous vous donnez en premier, les gens vous suivront. Quand vous vous donnez en premier, les gens vous suivront. Ça veut dire que vous devez d'abord être un donneur. Il faut d'abord semer. Il faut d'abord apprendre à semer en tant que leader, se donner soi-même. Roboam n'a pas voulu se donner, il a voulu prendre tout de suite des impôts supplémentaires, entre autres. Et quelqu'un a dit que le paradoxe du leadership est que plus vous donnez votre temps, vos talents et votre argent, alors plus l'organisation que vous servez vous donnera en retour. Paradoxe du leadership, c'est plus vous donnez votre temps, vos talents, votre argent, ce que vous êtes en fait, vos biens parfois, plus l'organisation que vous servez, ou les gens que vous servez en général, vous donnera en retour. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, je tiens à le signaler. C'est un principe. Plus tu te donnes, pendant un bon nombre d'années, tu te donnes corps et âme, tu donnes ce que tu as. Les gens voient que tu te sacrifies pour eux. Au moment où tu vas commencer à réellement avoir un succès important, les gens viendront te récompenser. De même. Par contre, plus tu veux prendre au début, pire ce sera. Il n'y a rien de pire que ces leaders. On verra la loi du sacrifice, c'est une loi du leadership. Beaucoup de gens ne veulent pas se sacrifier, beaucoup de gens veulent se servir. Et je connais aussi beaucoup de gens qui montent des églises simplement pour une question d'argent. Je vais vous dire une chose, ces gens-là ne réussiront jamais. Ils arriveront à escroquer des personnes pendant un certain temps, et croyez-moi, les gens vont fuir après. Ils iront chez d'autres pour aller les rouler encore, mais tôt ou tard, ils seront démasqués et ils seront en prison. C'est la honte d'avoir un pasteur en prison parce qu'il a escroqué des gens. C'est honteux. Ça donne un discrédit sur tout le corps de Christ. Et on ne veut pas être mêlé avec ces gens-là. Ni de près, ni de loin. Et malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui veulent prendre. Ils veulent se payer des voyages. Il y a des gens, ils sont bizarres. Moi, je vois des pasteurs, des fois, ils sont là, ils s'achètent des belles bagnoles, ils s'achètent des trucs, je veux dire, ils font des voyages constamment, etc., etc. Et le compte en banque de l'église, c'est incroyable de voir ça. Tu as un prix à payer. Au départ, tu roules dans des voitures. Moi, j'ai roulé pendant quelques années dans un cercueil roulant. Ma voiture s'est coupée en deux. Sérieux ? Elle avait eu un accident, on l'avait fait souder, et la bagnole un jour s'est coupée en deux. Maintenant, je roule dans une bonne bagnole, ça va. C'est la mienne d'ailleurs, c'est même pas celle de l'église. Parce que je n'aime pas trop que l'église me paye des choses. Je préfère donner. Il y a un prix. Il y a un prix à payer, frères et sœurs. Les gens qui veulent tout de suite... Mon église ne nous a pas donné un franc pendant 12 ans. Zéro. J'ai 6 enfants à élever, on s'est débrouillé. Elle a payé le loyer, elle a payé l'essence, elle a payé l'électricité et l'eau. Mais c'est seulement depuis l'année dernière où on a dit vraiment on a les enfants à l'extérieur, il nous faudrait un peu plus de revenus. Et j'ai dit à l'Assemblée générale de l'association... Voilà, bon, ben, il va falloir que l'Église commence à nous donner quelque chose. Pendant 12 ans, on n'a rien eu. Et alors, j'ai annoncé un chiffre qu'on voulait, et les gens de l'association ont dit, non, pasteur, on ne peut pas vous donner ça, on va vous donner plus. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Et ma femme, elle était là, à la maison, elle m'a dit, tu sais vraiment y faire avec les Burundais. J'ai dit, oui, je sais y faire. Ben oui, parce que les missionnaires ont l'habitude de venir avec des valises d'argent, vous savez, pour aller acheter des églises, des machins, des trucs. Et nous, on a commencé avec une église où tout était autofinancé. Tout le budget que nous avons vient uniquement du Burundi. Mais les gens ont tellement été bénis. Nous avons payé le prix pendant des années. Les gens ont été bénis et les gens sont super prospères. Notre église est l'église la plus prospère, je crois, du Burundi. Vraiment. On est vraiment bénis de ce côté-là. Les gens racontent toujours des témoignages. « Ah, pasteur, vous avez prié pour qu'on ait des super contrats. » J'ai deux personnes comme ça. Et il y a 3 semaines, j'ai donné une parole de connaissance dans mon église, juste après édimer les offrandes, on priait pour édimer les offrandes. Et j'ai dit, il y a quelqu'un ici, cette semaine, tu vas signer un contrat absolument exceptionnel. Incroyable, incroyable. Bon, je dois tranquille. Puis la semaine passe, puis moi, vous savez, je suis très occupé, je fais des trucs à droite, à gauche, etc., etc. Et le vendredi à 18h, vendredi d'après, à 18h. Il y a un frère qui m'appelle et me dit, « Pasteur, vous vous rappelez, vous avez donné une parole de connaissance à propos de... » etc., etc. J'ai dit, « Ah oui, ça y est, je m'en souviens. » Parce que vous savez, des fois, il y a tellement de choses qui se font qu'on ne sait plus où on en est. Et il me dit, « Pasteur, vous ne pouvez pas vous imaginer le contrat que je viens de signer il y a 30 minutes, vendredi à 17h30. » Absolument exceptionnel. Les gens sont bénis parce qu'on a dû investir en eux. Investir en eux, dans tous les domaines. Quand vous investissez dans les gens... Après, il y a un retour et ils viendront vous bénir de toute façon. Celui qui commence à vouloir soutirer de la part de son peuple, fait comme ça. C'est clair. Mais les gens ne comprennent pas. Beaucoup de leaders ne voient qu'au jour le jour. Ils ne comprennent pas que le leadership, c'est un marathon. Donc si tu prends aujourd'hui, demain tu auras des ennuis. Demain tu auras des ennuis. Fais gaffe. Apprends à investir, apprends à être patient. Et t'en fais pas, le Seigneur ne t'oubliera pas. Apprends à vivre au niveau où tu es. Tout simplement. Ça sert à rien de vouloir acheter une voiture 4x4 là, que tu vas payer 20 000 $ à faire des dettes sur l'église, alors que tu es encore dans des endroits où il y a des cheatings. Mais plutôt les 20 000 $ dans une construction ou dans une avance ou à la banque pour avoir de l'argent pour pouvoir payer un terrain. Parce que le terrain est prioritaire, la maison du Seigneur est prioritaire avant d'avoir ton super 4x4 Mercedes. Le jour où tu seras dans les hauteurs, tu pourras t'acheter ça en accessoire. Mais pas pour l'instant. Vous voyez, les gens font des graves erreurs là-dessus. Vous savez, Dieu veut nous bénir, mais il bénit que la bonne gestion. Il bénit pas les gens qui veulent constamment montrer qui ils sont. Travaille au niveau où tu es. Ça me fait penser au mariage des chrétiens. Il y a des chrétiens, des fois, ils veulent des mariages qui sont complètement au-delà, très largement, de leurs possibilités. Non, quand tu n'as pas beaucoup de sous, fais un mariage plus simple. Mais ne te mets pas dans les dettes. Il y a des gens, ils commencent leur mariage, ils sont tellement endettés qu'on ne sait même pas comment ils vont faire. 3 mois après, la femme dit, mais tu n'amènes rien à la maison. Ben oui, il a fallu payer, sinon on allait enlever la télévision et le lit et le machin et le truc. C'est de la stupidité, ça. Fais selon tes moyens. C'était une parenthèse. Excusez-moi, des fois je fais des parenthèses de gens fâchés. Alors, quand vous vous donnez, les gens vont vous suivre. Numéro 3. Lorsque vous vous connectez aux individus, vous attirez rapidement l'attention du plus grand nombre. Quand vous vous connectez aux individus, vous attirez l'attention du plus grand nombre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent aux foules, mais qui ne parlent pas à des gens clés avec lesquels ils doivent avoir des relations très fortes. Il y a un certain nombre de personnes avec qui tu dois avoir des relations très fortes dans ton leadership. Il y a des gens, ils ne veulent que parler aux foules, et en dehors de ça, ils parlent à personne. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut que tu apprennes. Connecte-toi à des individus clés. Et après, tu verras, eux-mêmes vont rassembler des gens et attirer des gens. Quatrièmement, comment les gens réagissent quand vous vous connectez avec eux? Quand vous vous occupez des gens, ils s'occupent de vous. Quand vous vous occupez des gens, ils s'occupent de vous. Vous voyez, Roboam ne s'est pas occupé des gens. Eh bien, ils ne se sont pas occupés de lui. Ils se sont dit, très bien, on n'a plus rien à faire avec David, avec Isaïe, etc., etc. Ils ont créé une rébellion. S'il s'était occupé des gens, Roboam, le peuple se serait occupé de lui, sans aucun problème. Il lui aurait respecté, il l'aurait honoré, il l'aurait suivi. Mais là, ils peuvent pas suivre un gars, un roi, qui ne s'occupait même pas d'eux, de leurs besoins basiques. Vous savez, les êtres humains ont des besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux des êtres humains, c'est de quoi? C'est de manger, c'est de pouvoir avoir un toit, c'est de pouvoir s'habiller correctement, c'est de pouvoir se déplacer, c'est pouvoir être soigné, c'est pouvoir être éduqué. Tout ça, ce sont des besoins fondamentaux des êtres humains. Quand un leader ne s'occupe pas d'un de ses besoins de son peuple, croyez-moi, il ne sera jamais aimé, jamais respecté et on ne s'occupera jamais de lui. Le jour où on aura une occasion de le renverser ou de lui jeter des pierres, croyez-moi, le peuple se lève et jette des pierres. Mais c'est normal. Parce que les gens ont des besoins fondamentaux. Et quand tu prends le leadership de quelque chose, eh ben, tu dois être quelqu'un de responsable qui va vouloir investir chez les autres. Si tu n'es pas capable de ça, ne sois pas leader. Laisse les autres diriger. Quatrième grand principe maintenant. Je parle de grand principe ici. Non, c'est quatrième grand principe. Le troisième grand principe, c'était se connecter avec les gens et du ressort du leader. Et on a vu 4 choses qu'il fallait faire, d'accord? Donc maintenant, numéro grand 4, c'est la connexion commence avec le cœur. La connexion, grand 4, commence avec le cœur. Vous savez, il y a des gens qui vous suivront parce que vous êtes leader, parce que vous avez un titre. Mais rappelez-vous, ça n'ira pas loin. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a en vous. Hein, parce que les beaux discours, ça passe. On va faire ça, on va faire ça. Par exemple, vous voyez, on a vu François Hollande contre Nicolas Sarkozy. C'était très amusant de voir les deux personnages ici. Il y en avait un qui, à mon avis, était meilleur leader, c'est Sarkozy pour moi. Je fais une analyse personnelle. Si vous n'aimez pas mon analyse, ce n'est pas grave. Je vous aimerai quand même. Alors, Nicolas Sarkozy avait des qualités de leader. En tout cas, c'était un homme de conviction. Mais il a fait des erreurs. En fait, une de ses graves erreurs à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'a pas su créer un très bon entourage. D'ailleurs, il y a la loi de l'entourage proche. Il a écarté des gens qui auraient pu l'aider au jour des élections. Et ça, il a fait cette grave erreur-là. En fait, il s'est isolé. Et les gens n'ont pas voté de droite ou de gauche en France, ils ont voté, certains exemples, par exemple le SMIC, le salaire minimum, il avait annoncé qu'il mettrait à temps, et il a juste augmenté très légèrement, parce qu'il s'est aperçu que ça allait coûter très cher. Trop cher. Par exemple, mais il y a plein de choses comme ça qu'il ne pourra pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il a profité de l'occasion de parler. Et les gens vont voir. Et vous savez, quand quelqu'un veut se faire élire, il fait des promesses. Mais les gens peuvent croire en lui facilement, croire dans ce qu'il dit. Maintenant, si la personne n'honore pas ses promesses, il va sortir de ses 5 ans la tête basse. Et on prendra un autre. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs. La démocratie aujourd'hui est une catastrophe en Europe. Ça devient grave. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. La démocratie a été un moindre pire. Mais là, on commence à dévier complètement dans nos démocraties en Europe. C'est une catastrophe. Les gens cherchent les minorités qui vont voter pour eux. Et c'est pour ça qu'on laisse passer les homosexuels. C'est pour ça qu'on laisse passer toutes sortes de saletés. Parce que ce sont des petits groupes qui rajoutent des voix. Uniquement. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Vous voyez, si vous voulez voir la déviation dans laquelle il ne faut jamais tomber. De toute façon, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu est un royaliste. Mais il faut dire une chose. Les rois sur la terre n'ont apporté que des boires pour la grande majorité d'entre eux. C'est dommage parce que la royauté dans le cœur de Dieu, nous adorons qui ? Le roi des rois. Je vous ai dit déjà, il y a deux choses qu'il n'y a pas dans le ciel. Il n'y a ni un bureau des plaintes, ni une assemblée nationale pour voter des lois qui pourraient passer ou ne pas passer contre ou pour Dieu. Dieu décide et on se tait. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Ok ? Alors les gens qui font des beaux discours, ça marche un temps, mais après les gens veulent voir ce que vous avez dans le ventre. Si réellement ce que vous dites, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de leaders font. Donc, Roboam aurait dû faire des changements. Et il y a des changements souvent que les leaders doivent faire. Numéro 1, au lieu de donner des leçons en premier, apprenez à écouter les gens. Les changements que Roboam aurait dû faire. Au lieu de donner des leçons, apprenez d'abord à écouter. Il y a beaucoup de leaders qui parlent, qui promettent, qui disent sans écouter les gens. Ça, c'est mauvais. Apprenez à écouter les gens. Il y a des moments où tu dois dire, tu dois agir en tant que leader, ça c'est clair. Mais il y a un moment aussi où tu dois être sensible et tu dois apprendre à écouter les gens. Ensuite, numéro 2, au lieu de projeter une image, projeter l'intégrité. Au lieu de projeter une image, projeter l'intégrité. Ça aussi, c'est le problème. Moi, je suis le chef. Moi. Non, arrêtez de projeter une image. Projetez vraiment l'intégrité. C'est-à-dire, l'intégrité, je vous rappelle, une partie de l'intégrité, c'est faites ce que vous dites. D'accord ? Soyez un homme de parole. C'est très important en tant que leader. Numéro 3, au lieu d'affirmer votre leadership, démontrez la compassion. Au lieu d'affirmer votre leadership, c'est-à-dire de dire « c'est moi le chef, donc vous faites ce que je vous dis de faire », au lieu d'affirmer votre leadership, démontrez la compassion. Ça, c'est important. Vous devez ressentir le cœur du peuple que vous dirigez, du groupe que vous dirigez. Donc au lieu d'essayer d'affirmer votre leadership, c'est-à-dire c'est toujours le dictateur, c'est moi, non, ne faites pas ça en premier. Déployez la compassion, comprenez, ressentez le cœur du peuple que vous dirigez, c'est très important. Numéro 4, au lieu de poser vos yeux sur les autres, percez leur cœur, dans la bonne manière, bien sûr. Au lieu de poser vos yeux sur les autres, percez leur cœur. Ça, c'est important. Il y a des gens qui regardent le peuple, mais qui ne ressentent pas leur cœur, qui ne percent pas le cœur des besoins et des souffrances. Donc, c'est des gens qui sont insensibles. C'est ça, c'est très, très mauvais. Donc, tout ça, Roboam aurait dû le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il s'est complètement déconnecté avec le peuple et nous avons vu les résultats. Allez, rapidement, cinquième grand point et on en termine pour aujourd'hui. Cinquième grand point, demande un effort soutenu volontaire. Se connecter avec les autres demande un effort soutenu et volontaire, bien sûr de la part du leader. Se connecter avec les autres demande un effort soutenu et volontaire, c'est-à-dire un effort régulier, constant et volontaire, c'est-à-dire le leader doit choisir de faire ça. Donc se connecter avec les autres demande un effort soutenu et volontaire. Il y a 7 choses qu'il faut toujours voir et constamment faire. 7 choses qu'il faut faire pour se connecter avec les autres et rester connecté avec les autres. 7 choses importantes qu'on va voir très rapidement et après on clôture ça. 7 choses que vous devez faire régulièrement. Ce n'est pas une chose que vous allez faire, des choses que vous allez faire une fois de temps en temps, mais c'est régulièrement. Numéro 1, il faut que vous vous sentiez bien dans votre peau. Bien se sentir dans votre peau. Ça, c'est important. Les leaders qui se sentent mal dans leur peau, ça veut dire qu'ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comment est-ce que tu ne te comprends pas toi-même que tu veux comprendre les autres? Donc, bien se sentir avec soi-même, à l'intérieur de soi-même. Si tu n'es pas bien à l'intérieur, tu vas le manifester à l'extérieur et tu ne vas pas comprendre les autres non plus. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à résoudre tes propres problèmes, comment tu veux résoudre les problèmes des autres? Ne soyons pas bourrés d'illusions. Numéro 2, partagez avec les autres de façon sincère et ouverte. Partagez avec les autres de façon sincère et ouverte. Ça, c'est important aussi. Soyez franc, soyez réel. Donc, un partage toujours de manière sincère et ouverte. Pas des trucs cachés, des trucs bizarres. Numéro 3, vivez votre message. Ça, c'est important. Vous êtes là, vous dirigez les gens, vous avez un message, mais vous devez le vivre en premier. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vivez ce que je vous dis de faire, faites ce que je vous dis, mais moi, je ne le fais pas. Non, vivez votre message. Ça, c'est un troisième point important. Quatrième point, apprenez à connaître ceux que vous dirigez. Apprenez à connaître ceux que vous dirigez. Ça, c'est important. Donc, il faut apprendre à connaître le peuple que vous dirigez, à sonder leur cœur, à voir leurs besoins, à connaître leurs souffrances, à voir leurs aspirations. C'est important, tout ça. Tu ne peux pas diriger quelqu'un juste comme ça, entre guillemets, tu ne connais rien de leur vie et tu dis, voilà, suivez-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas connecté. Ensuite, numéro 5, communiquer à leur niveau. Communiquer à leur niveau. Ça, c'est important aussi. Apprendre à communiquer au niveau du peuple que vous dirigez. Communiquer à leur niveau. Soyez simple, voyez là où ils sont et prenez les là où ils sont. N'essayez pas de jouer les « je connais tout », expliquer des choses qu'ils ne comprendront pas du tout. Non, apprenez à communiquer à leur niveau. Prenez-les là où ils sont. J'ai un ami qui est pasteur comme ça à Ouvira, au Congo. Et quand il a commencé, vraiment, c'était extrêmement difficile. Là, son église est en train de décoller. Ça fait 5 ans que je le suis régulise. Et vraiment, l'église est en train de décoller. Et au début, il se sentait très incompris. Je lui dis, non, il faut que tu te mettes là où ils sont. Démarre là où ils sont. Tu démarres dans un terrain difficile, avec la guerre, avec des problèmes économiques gigantesques, etc., etc. Tu démarres là où ils sont et tu vas leur montrer de les amener. Et il a commencé à utiliser ce principe-là. Et vraiment, là, il est en train de faire un super boulot. Il est en train d'attirer vraiment des bonnes personnes, de voir des gens qui ne prenaient pas. Il avait du mal à se connecter avec eux et à communiquer à leur niveau. Numéro 6, croyez le meilleur de ceux que vous dirigez. Ça, c'est important aussi. Croyez le meilleur de ceux que vous dirigez. Il y a malheureusement des leaders qui n'arrivent pas à croire que des gens peuvent changer. C'est vrai que des fois, on se retrouve avec des gens que l'on dirige ou à qui on voudrait donner des responsabilités qui ont des problèmes très sérieux. Mais ces gens-là peuvent changer. Crois le meilleur, parle le meilleur sur eux. Bien sûr, il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Cela est cartelé. Tant qu'ils ne sont pas, se sont pas repentis. Ils te font des trucs bêtes, maladroits. Mais crois que Dieu peut les changer. Des fois, ça prend du temps. Quand un leader commence à constamment critiquer des personnes qu'il met en position, le leader a un problème très sérieux. Tu dois croire dans le meilleur. Tu dois croire que prophétiquement, il va être changé de par l'influence, entre autres, que tu exerces envers lui. Ça, c'est important. Et numéro 7, et dernière chose pour aujourd'hui, offrez des directions pour leur vie. C'est-à-dire, soyez quelqu'un qui inspire. Pas avec des choses idylliques, hein, parce que parfois je vois des prédicateurs raconter des trucs qu'ils ne feront jamais, mais donner des directions pour la vie des gens, donner-leur de l'espoir, un avenir meilleur. Un leader doit amener, mais pas n'importe comment, parce que je vois aujourd'hui des gens un langage extrêmement apprêté, vous savez, où ils font mettre de faux espoirs dans les gens, histoire que les gens les suivent, histoire que les gens quittent leurs églises et viennent les suivre, par exemple. Ça, c'est pas bon du tout, ne vous faites pas piéger avec ça. Des gens qui vous racontent tout un tas de trucs avec tout un langage très... Et particulièrement pris des anglophones, certains prédicateurs anglophones. Il y a des anglophones qui sont excellents, mais il y en a d'autres vraiment qui abusent et qui sont très manipulateurs. Et il faut faire très attention, il faut rester dans l'équilibre. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui a inspiré les autres correctement? Quand je parle d'inspirer les autres, c'est les amener dans un avenir meilleur, étape après étape, ou quelqu'un qui dit n'importe quoi, en faux genre, tout va changer, tu vas voir, dans 3 mois... Tout sera complètement changé dans ta vie. Non, ça demande du temps. Vous voyez? Ou alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'amenait jamais rien de positif, qui n'inspirait absolument personne, et qui finalement amène les gens à tourner en rond, c'est-à-dire nulle part?
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.